Pierre-Étienne Joie.
Le stress et l'épuisement des travailleurs atteint un niveau toujours plus alarmant selon Travail Suisse. 6 travailleurs sur 7 se disent parfois ou souvent trop exténués après une journée de travail pour s'occuper encore de leurs affaires personnelles ou familiales. Un record alerte le syndicat ce matin. Plus de 770 000 employés songent notamment à changer de travail l'année prochaine en raison du stress subi. Et les salaires en Suisse ont continué d'augmenter au troisième trimestre cette année. Ils ont progressé en moyenne de 1,5% sur un an, indique ce matin l'Office fédéral de la statistique. L'OFS relativise toutefois cette croissance, car les salaires ne tiennent pas compte de l'inflation. Le renchérissement devrait être d'un peu plus de 1% cette année. Quant au PIB de la Suisse, il ralentit. Au troisième trimestre, le produit intérieur brut a progressé de 0,2% contre 0,4% au trimestre précédent, d'après le secrétariat d'État à l'économie. En peine notamment les exportations de marchandises et la création de valeur dans l'industrie. Le ministère public de la Confédération a inculpé la banque privée genevoise Lombard-Odier et un ancien collaborateur pour blanchiment d'argent aggravé. Ils sont soupçonnés d'avoir aidé à dissimuler les bénéfices de la fille de l'ancien président de l'Ouzbékistan, ceci entre 2005 et 2012. L'armée russe annonce avoir abattu la nuit passée 47 drones ukrainiens qui ont visé essentiellement la région de Rostov, frontalière de l'Ukraine. Un important incendie s'est déclaré sur un site industriel. Kiev dit mener ses offensives par drone en réponse aux bombardements russes sur son territoire. En Géorgie, la police anti-émeute a procédé à plus de 40 arrestations lors d'une manifestation pro-Union européenne ce matin. Un rassemblement de plusieurs milliers de personnes contre la décision des autorités de suspendre les efforts d'intégration à l'Union européenne jusqu'en 2028. Le nouveau gouvernement géorgien est accusé de dérives autoritaires pro-russes. Une nouvelle manifestation est prévue ce soir. Et on vote dès ce matin en Irlande. Les bureaux ont ouvert pour des élections législatives. Le résultat s'annonce serré. Les deux partis de centre-droit de la coalition sortante sont au coude à coude avec le parti d'opposition Sinn Féin après une campagne dominée par la pénurie de logements et la crise du coût de la vie. Et les transports publics bloqués aujourd'hui en Italie. 2 syndicats ont décrété une grève générale. Son impact devrait être limité par une obligation de service minimum imposée par le ministre Matteo Salvini. Cette grève est une réaction au projet de budget de l'Italie. Les syndicats réclament l'augmentation du pouvoir d'achat, des salaires et des retraites ainsi que le financement des services publics. Retour en Suisse et en Valais où le canton a atteint la barre des 15 loups abattus dans le cadre de son programme de régulation 2024-2025, démarré en septembre. Les 2 derniers ont été tirés hier, indique le service cantonal de la chasse. L'un des 2 derniers loups tués appartenait à la meute de Nanda Isérable, meute nouvellement visée à la suite d'une attaque sur un troupeau protégé. La météo encore du stratus ce matin, surtout au nord des Alpes, mais aussi en Valais, avec une limite supérieure vers 1000 mètres, un stratus qui va se dissiper en grande partie cet après-midi, au-dessus et ailleurs du soleil, des températures en pleine qui ne vont pas dépasser 8 degrés, et ce week-end, brouillard et stratus sur le plateau entre 800 et 900 mètres, en matinée essentiellement. Dimanche, ils vont se dissiper en partie l'après-midi, et au-dessus et ailleurs ensoleillé, avec quelques voiles d'altitude.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. Avec la RTS, cultivons la passion du sport. Du 11 au 15 décembre, les meilleurs cavaliers et chevaux du monde se réunissent à Palexpo pour le 63e concours hippique international de Genève. 5 jours de compétition avec la 23e finale du Top 10, le Cross Indoor et bien d'autres épreuves spectaculaires. Et en apothéose, le Grand Prix, une des 4 étapes du Grand Chelem de saut d'obstacles. Plus d'informations sur chi-genève.ch. Retrouvez le CHI le vendredi 13 décembre dès 18h15 et le dimanche 15 décembre dès 11h30 sur RTS2.
Tribu, Julien Magnolet.
La Suisse romande connaît depuis une vingtaine d'années une forte poussée démographique. De nombreuses nouvelles constructions et aménagements voient le jour. Alors qui dit nouvelle construction dit bien souvent mise à l'enquête, permis de construire. D'où vient ce système de vérification en amont des travaux? À quoi sert-il? Et pourquoi certaines constructions ou transformations, même intérieures, doivent-elles passer par une mise à l'enquête publique alors que d'autres pas? Bonjour Benoît Beauvais.
Bonjour Julien Magnolet, merci de m'avoir invité pour faire partager ma passion, ces ondes.
Une passion qui vous habite depuis plusieurs décennies. Vous aviez fait votre thèse sur la question des permis de construire. Vous sortez un petit livre aux éditions du Savoir Suisse, Le permis de construire. Et vous êtes, Benoît Beauvais, avocat spécialiste en droit de la construction et de l'immobilier, et professeur aussi à l'Université de Lausanne. Merci beaucoup d'être en direct chez nous à La Sala. Alors ça date de quand, cette idée qu'il faut demander avant de construire un bâtiment, une infrastructure, des autorisations? C'est récent?
Non, c'est ancien, puisqu'à la fin du 19e siècle, il y avait déjà effectivement l'institution du permis de construire. La seule différence, c'est qu'à l'époque, si l'autorité ne répondait pas, on pouvait démarrer. Ça, c'est le rêve des promoteurs actuels.
Comment ça, s'ils ne répondaient pas? Donc, on pouvait envoyer une lettre un peu comme ça, mal écrite, qui se perdait dans les tiroirs de l'administration, c'est ça?
Alors non, il fallait que le dossier soit complet. Et si l'autorité tardait à répondre, on considérait qu'il y avait une autorisation tacite, ce qui n'est plus le cas depuis la moitié du 20e siècle.
À l'époque, me semble-t-il, à vous lire, la première préoccupation, c'était une question d'incendie, c'est juste?
Absolument. Non seulement d'incendie, on a vu qu'il y avait plein de prescriptions, par exemple, sur les cinémas, mais aussi de salubrité. Et c'était l'époque où on commençait à se poser des questions d'hygiène. Il fallait qu'il y ait des cabinets d'aisance pour les logements, il fallait que les pièces aient une certaine taille et des ouvertures de la lumière.
Alors, permis de construire, mise à l'enquête publique, ça sert à quoi? D'ailleurs, vous faites un petit clin d'œil. Est-ce que c'est juste une espèce de lubie de gens de l'administration qui veulent tout contrôler? Ça sert à quoi un permis de construire?
Alors, un permis de construire sert à deux choses. La première chose, c'est que effectivement l'administration doit s'assurer que le projet est conforme aux lois, aux règlements, et il y en a beaucoup en cette matière. La deuxième chose, il s'agit de publier le projet pour que les tiers, les voisins, d'autres personnes intéressées puissent prendre connaissance de ce qui sera fait, soient entendus le cas échéant dans cette procédure et ne soient pas surpris de la construction qui sera faite ultérieurement.
Mais on peut se dire, tiens, une personne, un privé a un terrain, il désire construire quelque chose sur ce terrain, c'est de la propriété privée, pourquoi est-ce que les voisins, voire même plus loin, ont leur mot à dire là-dessus?
Alors bien entendu que la propriété privée est garantie en Suisse, la liberté de création aussi, l'utilisation est aussi garantie. Simplement, pour toute décision administrative, on doit entendre les gens qui pourraient invoquer leurs droits, qui pourraient protester, qui pourraient critiquer l'objet, et on le fait par la procédure de permis de construire, soit par l'enquête publique, ce qui est plus simple que d'entendre toutes les personnes concernées.
Mais c'est la demande pour un permis de construire, c'est d'abord protéger dans le fond, que les lois soient appliquées, ou est-ce que c'est aussi protéger le promoteur lui-même, ou peut-être le maître d'ouvrage, ou les voisins? Est-ce qu'il y a une priorité, dans le fond, dans les personnes qui sont concernées?
Il n'y a pas de priorité. Les trois sont concernés. C'est vrai que celui qui construit, le propriétaire individuel, lambda, ou le promoteur habituel, déposer un dossier bien formalisé, ça lui permet d'être au clair avec lui-même, d'une part, et qu'il n'y ait pas de malentendu avec l'administration, avec ses entreprises. Et on pourra contrôler après que ce qu'il a mis à l'enquête, le permis de construire qu'il a obtenu soit correctement réalisé, sans modification. Et puis, d'un autre côté, l'application des lois, elle est importante. L'État, c'est son objectif. Il doit faire en sorte, ou la commune et l'État, que les lois soient correctement appliquées. Puis enfin, il faut qu'effectivement les tiers soient au courant de ce qui va se faire et ce qui restera pendant plusieurs décennies à côté de chez eux.
Est-ce que ce procédé de permis de construire, mise à l'enquête, permis de construire, est-ce que c'est propre à la Suisse ou on retrouve un peu ça partout en Europe par exemple?
Alors, j'ai pas évidemment fait une étude partout, mais ça existe partout. Partout, avant de construire, enfin dans tous les pays civilisés, on doit effectivement obtenir des autorisations. Parfois, c'est beaucoup plus compliqué qu'en Suisse. Il y a des pays qui sont plus administratifs que la Suisse. Chez nous, ça existe dans tous les cantons et c'était l'objectif du livre, c'était de présenter un peu les systèmes non seulement le système vaudois, mais ceux des cantons romands, et de montrer les similitudes ou les différences entre les cantons de langue francophone.
Justement, est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre les cantons en Suisse romande?
Alors, il y a quelques différences, notamment sur l'autorité qui statue. On sait que Genève, c'est très centralisé, c'est le canton, alors que dans le canton de Vaud, ce sont les communes. Mais après, il y a des répartitions de compétences plus fines, les préfets, par exemple, à Fribourg, ou bien, selon la typologie en Valais, vous avez les communes qui statue sur certains types de permis, l'État sur d'autres, voire même, par exemple, en Valais. Ce qui est très intéressant, c'est que dès le moment où la collectivité, la commune construit pour elle-même, c'est plus la commune qui donne le permis, comme dans le canton de Vaud, mais c'est une commission indépendante.
C'est intéressant, ça, effectivement, pour pas qu'il y ait peut-être
la un conflit d'intérêt.
Juge est parti. Dans le canton de Vaud, on connaît lorsqu'il y a une nouvelle construction, ou bien peut-être un étage supplémentaire qui est construit, il y a tout le temps les gabarits, et puis cette petite affichette orange qui décrit succinctement les travaux. Ça, on le retrouve dans tous les cantons de Suisse romande?
Non. Et même pas dans toutes les communes de Suisse romande, parce que ça, c'est du canton de Vaud. Parce que ça, c'est effectivement, ça dépend du règlement. La loi cantonale prévoit que l'autorité, la commune principalement, peut exiger des gabarits, un profilement, peut. Mais c'est pas obligatoire, alors que par exemple la commune de Lausanne exige systématiquement le profilement et la petite affichette. Ce sont deux très bons moyens de publicité, parce que quand vous vous promenez, vous voyez effectivement ce qu'il y a, tandis que il y a des communes qui ne demandent pas de profilement de la construction, pas de gabarit et ne mettent pas d'affichette.
Mais il doit quand même, alors c'est obligatoire qu'il y ait une forme de publicité de quelque chose qui va se passer dans un champ où on va construire par exemple 15 logements. Qu'est-ce qui se passe? C'est au pilier public?
Oui, c'est au pilier public, c'est publié dans la feuille des avis officielle, c'est publié sur Internet maintenant, ça c'est clair. Vous pouvez, alors dans le canton de Vaud, vous avez un système, vous pouvez vous abonner et obtenir les avis de publication de tout ce qui se passe aux alentours de chez vous, ce qui simplifie quand même le travail. Mais ça c'est assez variable selon les cantons.
Alors souvent, les promoteurs, ils aiment pas trop cette phase de mise à l'enquête publique, parce que non seulement des gens peuvent s'y intéresser, s'y opposer, mais aussi pas mal, c'est quelque chose qui est très scruté par les journalistes, parce que ça permet de savoir ce qui va se passer à gauche et à droite. Je l'ai beaucoup pratiqué par le passé, ayant travaillé dans la presse écrite. Il y a quand même cette envie de justement publiciser, dire voilà, il va se passer ça à tel endroit, on va construire ce bâtiment, et il sera comme ça. Certains y voient un peu une curiosité mal placée, parce qu'on peut aller assez loin dans la description des futurs bâtiments.
Il est évident qu'il faut respecter le droit d'être entendu des tiers. C'est évidemment tout le problème juridique qui est mis en avant. Alors, c'est pas forcément le droit d'être entendu des journalistes, mais quand on construit, on va construire de manière ouverte, publique, on verra ce qui se fera. Évidemment, certaines personnes considèrent que aller dans l'intérieur des constructions, ça pose des problèmes. Ben non, la plupart du temps, de savoir si la salle de bain a telle ou telle dimension, c'est pas ça qui va intéresser les journalistes ni les tiers. Mais ça, c'est le principe. Les plans sont publiés, les plans sont publics, vous pouvez en obtenir des photocopies, le cas échéant, et puis vous vous exprimez si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez des remarques à faire.
Mais ils sont publics pendant un certain laps de temps, parce qu'une fois que l'enquête est refermée, ils ne sont plus accessibles, c'est juste?
Ils sont accessibles en fonction effectivement du droit de la transparence des actes d'administration. Vous pouvez aller voir. Et puis ne serait-ce que si vous avez un intérêt, si vous êtes un voisin, puis vous avez des doutes sur le respect des plans, vous pouvez y accéder.
Alors, il y a la question assez centrale, dans le fond, lorsqu'on parle de mise à l'enquête publique et ensuite de permis de construire, de qu'est-ce qui passe sous ce radar-là? Est-ce qu'il y a des normes et est-ce qu'elles changent beaucoup en fonction des communes et des cantons?
Alors, il y a un principe très général qui résulte du droit fédéral. Toute construction ou installation, soit un objet créé par la main de l'homme qui a un effet assez sensible sur le terrain, sur un bâtiment, doit faire l'objet d'un permis de construire. Puis à partir de là, les cantons ont leur propre définition. La plupart ont simplement repris la définition du tribunal fédéral, création artificielle, qui est durable, etc. Et puis certains cantons ont des définitions un peu plus précises. Et surtout, par exemple, le canton de Vaud a une sorte de liste en disant « voilà ce qui doit faire l'objet d'un permis de construire, voilà ce qui doit être mis en enquête publique », parce que vous avez des cas permis de construire, mais pas forcément enquête publique pour les petites constructions. Il faut que l'administration contrôle, mais ça sera dispensé d'enquête publique. Et puis il y a des cas qui ne font l'objet ni de permis de construire, ni même d'enquête publique, une clôture, peut-être un arbre ou des choses comme ça.
C'est ce qu'on appelle une enquête administrative, c'est juste lorsque c'est seulement l'administration qui regarde que la construction est conforme.
On appelle ça plutôt une dispense d'enquête publique.
Dispense d'enquête publique.
Mais c'est juste, c'est une enquête administrative.
Mais il y a des choses qui sont, par exemple, énormes, mais qui sont éphémères. Certaines demandent des enquêtes, d'autres pas. Vous donnez l'exemple du Paléo Festival. Est-ce que le Paléo Festival, chaque année, doit mettre à l'enquête publique ses scènes, etc.?
Non, Parce que le Paléo Festival a offert un plan d'affectation spécifique et puis tout ça a été régularisé. Maintenant, c'est une autorisation qui est donnée. Alors, je ne sais pas comment est-ce que Nyon le fait. Je sais qu'il y a eu de la jurisprudence pour l'arène de la Fête des Vignerons, où effectivement, pour l'arène de la Fête des Vignerons, s'était posé la question de la procédure à suivre. Et comme ça devait rester pendant un certain nombre de mois, ça a été mis à l'enquête publique. Et ça a fait l'objet d'ailleurs de contestations.
Et par exemple, là on voit beaucoup fleurir à gauche, à droite, des marchés de Noël. Est-ce que ça doit être mis à l'enquête publique?
Alors, les constructions provisoires, en principe, pas.
Mais il y a des constructions provisoires qui restent, par exemple, 6 mois, mais qui reviennent d'année en année et qui, là, doivent des fois passer.
Absolument.
Par des...
Au-delà d'un certain nombre de mois ou en cas de répétition, ça doit faire l'objet d'une enquête publique. Mmh. Et puis, il y a toujours un critère qui est celui de l'atteinte à d'autres intérêts publics. Par exemple, si ça porte atteinte à un bâtiment protégé, à une source ou autre, là, il faudra passer par une enquête et surtout un permis de construire. Et puis, également, si ça peut porter atteinte au voisinage avec une certaine intensité, se pose la question du permis de construire pour que les tiers puissent intervenir.
Donc, c'est pas qu'une question de taille, mais ça peut être une question de nuisance. Absolument. En matière d'odeur, peut-être, de bruit, ça.
Absolument. Oui, on a, alors, le nombre de litiges qu'il y a pour des porcheries, pour des établissements agricoles, pour des entreprises, des industries, en matière d'odeur, ou tout ce qui est bruit, bien entendu, c'est des choses qui comptent.
Ce qui m'a étonné à vous lire, Benoît Beauvais, c'est par exemple qu'un important jardin potager, il doit être mis à l'enquête publique. Pourquoi?
Alors, je crois que le cas, l'espèce, est-ce que c'était hors de la zone à bâtir? C'est bien possible. Dès le moment où on est hors de la zone à bâtir, c'est encore plus sensible. Tout ce qui est modifié par la main de l'homme peut effectivement ou doit faire l'objet d'une enquête publique et d'un permis.
Nous parlons mise à l'enquête publique et permis de construire ce matin. Dans Tribu, mon invité est Benoît Beauvais, spécialiste de la question. On va se pencher sur l'épineuse question des oppositions. Ça sera juste après Madness.
Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, in the middle of our street.
Something tells you that you've got to move
in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Our house in the middle.
Madness, Our House, c'était notre maison, comme on dirait, on traduirait ça en français. On vous retrouve, Benoît Boven, nous parlons de maison, mais de construction de manière générale avec vous ce matin. On s'intéresse aux mises à l'enquête publique, aux droits de construction. Alors, ben voilà, ça, tout le monde y est confronté, d'un côté ou de l'autre de la barrière, c'est la question de l'opposition, du droit à l'opposition. Lorsqu'il y a une mise à l'enquête publique, qui a le droit de faire opposition?
Alors, comme je vous l'ai dit, normalement, quand on prend une décision, comme un permis de construire, on doit entendre spontanément tous les gens qui pourraient avoir des griefs à faire valoir ou des intérêts même très généraux à invoquer. Pour éviter ça, on met à l'enquête publique. Ce qui signifie que pendant l'enquête publique, celles et ceux qui souhaitent dire quelque chose, faire des remarques, critiquer, invoquer des problèmes particuliers, peuvent le faire. N'importe qui peut intervenir lors d'une enquête publique.
N'importe qui, pas besoin d'être voisin.
Non, moi je dis toujours à mes étudiants, je leur montre une caricature de Burki, on voit des Japonais qui interviennent contre le toit du Parlement cantonal, je dis bah oui, un Japonais de passage peut faire opposition.
Ça c'est pour l'opposition.
Oui.
Ensuite, qui traite les oppositions?
C'est la municipalité, voire l'État.
Et il peut lever, qu'est-ce qu'il doit faire? Certaines oppositions sont levées quasiment dans la séance, d'autres
non,
pas.
Non, alors au moment de la décision de permis de construire, l'autorité va examiner si les griefs des opposants sont corrects ou pas, lever l'opposition ou pas. Et au moment où la décision est prise, on avertit l'opposant que son opposition est retenue, que le permis est refusé ou que le permis est accordé, que son opposition est levée. Et c'est là que l'opposant a un délai de 30 jours pour faire recours.
Et là, lorsqu'on fait recours, donc là cette fois-ci ça va devant la justice, est-ce que tout le monde ou est-ce que aussi les associations ont le droit de monter à cet âge-là?
Alors effectivement, dans le canton de Vaud, comme le droit d'opposition est très large, le tri se fait au niveau du recours. Seuls ceux qui sont vraiment touchés par le projet, il faut être pas trop loin du projet, ou il faut le voir, ou l'entendre, ou le sentir, peuvent recourir. En revanche, vous avez d'autres cantons où on est plus strict et plus resserré sur le droit de faire opposition. On va déjà contrôler au niveau de l'opposition qui peut le faire et qui a un intérêt à le faire, ce qui ensuite leur permettra de recourir sans qu'on doive examiner. Donc, à un moment donné, il y a de toute façon un tri. Mais dans le canton de Vaud, n'importe qui peut intervenir pour faire valoir ses moyens. Dans d'autres cantons, c'est la même chose. En revanche, le recours, il y aura cet entonnoir.
Et donc, il y a un tri qui se fait à un moment donné aux personnes qui ont le droit de faire recours. Ça dépend à quel niveau, au niveau des cantons. Est-ce qu'une association environnementale ou de défense du patrimoine peut faire recours?
Oui, ça c'est même garanti par le droit fédéral, où les associations de protection du patrimoine bâti, par exemple, ou les associations telles Pro Natura, protection du paysage, de la nature, ont un droit de recours, pour autant bien entendu qu'on entre dans un objet qui est protégé ou qui porte atteinte effectivement à l'environnement, au paysage.
C'est compliqué lorsqu'on construit, il y a la question de l'esthétique. Est-ce qu'on peut dire, écoutez, ce futur bâtiment est absolument moche, il faut pas qu'il soit construit comme ça à côté de chez moi. Est-ce que l'esthétique compte?
Oui, ça compte et ça compte à mon avis de plus en plus. Pourquoi? Parce que le droit fédéral a certes admis une densification dans les territoires bâtis, mais en même temps que la qualité. Mais aujourd'hui, on ne peut que construire de façon qualitative. Et on est de plus en plus sensible aux problèmes d'esthétique. Et l'esthétique, contrairement à ce que certaines personnes pensent, c'est pas des questions de goût et des couleurs, comme on disait avant. C'est effectivement une notion qui est juridique, qui doit être appliquée, qui est difficile à appliquer. Et certaines communes se font aider, par exemple, par des architectes, par des commissions, pour pouvoir apprécier si le projet est suffisamment de bon niveau esthétique ou pas.
Et ça permet, par exemple, il y a certains quartiers, on sait qu'à Lausanne, il y a une grande pression démographique, comme dans d'autres villes, Genève encore plus. Est-ce que cette dimension peut être invoquée, par exemple, par un exécutif pour dire, écoutez, on a affaire soit à un bâtiment, soit à un ensemble bâti qui est esthétique, mais est-ce qu'ils doivent, pour se faire, s'appuyer sur, des données concrètes, des inventaires ou des choses comme ça, ou ICOMOS, qui existe aussi au niveau fédéral, pour pouvoir faire passer ce genre d'argument?
Absolument, et d'ailleurs, Lausanne a une déléguée au patrimoine, a mis en place une commission consultative d'architectes qui va se prononcer sur certains projets sensibles. Il y a des notes qui sont données aux bâtiments existants, jusqu'à 1, 2, 3, 4, et là on est beaucoup plus sensible, on évite de les démolir. Après, évidemment, il y a le politique, où parfois le politique va peut-être plus loin que les nécessités de protection qu'on aimerait avoir.
Il y a la fameuse ancienne halle aux locomotives du côté de Lausanne, qui abrite le nouveau musée des Beaux-Arts. Là, je crois que c'était une note 2, ce qui n'a pas empêché ça quasi-démolition. Je crois qu'il reste plus ou moins quelques pierres d'origine, mais là, il y a eu une démolition.
Absolument, et évidemment, c'est tout à fait regrettable d'aller jusque-là. Bon, c'était un concours d'architecture, c'était un choix, la procédure a été faite de manière très complète, mais il y a eu des contestations.
On parle parfois aussi d'opposition lorsqu'il y a une enquête publique, mais aussi d'observation. Est-ce que c'est différent, une observation, une opposition ?
Alors ça, c'est très vaudois. Parce que, effectivement, dans le canton de Vaud, vous pouvez faire des oppositions, des observations, et on admet en général que seuls les opposants puissent recourir. À mon avis, c'est discutable. Toute personne qui a participé à l'enquête, pour autant qu'il ait un intérêt suffisant, peut recourir, respecte les critères habituels. Mais il y a cette remarque. Alors, certaines personnes, pour pas froisser le voisin, disent « je me limite à faire une observation, une remarque, parce que j'ai un point accessoire à traiter, et j'ai pas envie de faire opposition au projet lui-même. »
Si on se met de l'autre point de vue, pas du côté des gens qui font opposition, mais des gens qui font leur projet, qui veulent construire une nouvelle maison, ou bien rajouter je ne sais quoi dans leur jardin, pourquoi, enfin, souvent ce qu'on entend c'est ça dure longtemps, dès qu'il y a une mise en enquête ça dure longtemps, qu'est-ce qui fait que ce procédé met un certain temps à aboutir?
Il y a deux choses, d'abord la charge des autorités parce qu'elles sont confrontées à beaucoup de projets, et puis ensuite parce que un projet de construction et la procédure de permis de construire permet de le concrétiser, c'est un peu comme une symphonie, il y a énormément d'instruments, il y a énormément de notes, il y a énormément de lignes de partition pour arriver à un projet, donc c'est complexe.
Là, il y a des grandes différences, disparités entre les cantons en matière de durée pour obtenir un permis de construire?
Alors, d'après ce que j'ai vu, non. Et il y a des cantons qui sont plus lents même que, si on peut dire, que la critique qu'on fait parfois à certaines communes ou à l'administration cantonale. Mais ça fonctionne globalement bien, et puis il faut se dire qu'après on construit pour 100 ans et pas pour 6 mois.
On a parlé de ces nouveaux bâtiments, là on comprend, il y a un aspect visuel, ça peut bloquer une vue, ça peut avoir un effet sur le quotidien. Il y a des choses qu'on n'a pas encore évoquées, c'est que parfois un changement d'affectation d'un local, donc un local existe, mais on change son affectation, et là il faut aussi une mise à l'enquête. Comment l'expliquer ?
Ben parce que c'est plus la même chose. Si vous avez à côté de chez vous un logement ou si vous avez un commerce qui a une certaine intensité, ça peut avoir un impact.
Donc c'est pas qu'une question de volume, à nouveau ?
Absolument.
Sur la question maintenant énergétique, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui sont arrivées, qui n'étaient pas là peut-être encore il y a 15-20 ans, les pompes à chaleur, les cellules photovoltaïques, comment ça se passe? Est-ce que là, il faut mettre à l'enquête?
Alors, il y a certains types de panneaux solaires jusqu'à une certaine dimension, et pour autant qu'ils soient très bien intégrés, qu'ils peuvent être dispensés effectivement de permis de construire, et actuellement aussi, certains types de pompes à chaleur peuvent l'être. Mais il y aura toujours le problème d'une éventuelle atteinte au voisinage.
Oui, parce que la pompe à chaleur, en tout cas actuellement, ça peut faire notamment... C'est du bruit, c'est plutôt... Oui. C'est pas une question d'esthétique, mais de bruit.
Bien sûr. Oui.
Donc si on avance dans le procédé, à un moment donné, il y a le permis, je crois, d'habiter ou d'utiliser. Qu'est-ce que c'est que ce permis d'habiter ou d'utiliser?
Et c'est là que l'autorité va contrôler la conformité de ce qui a été fait par rapport au plan d'une part, et d'autre part, que tout soit en ordre, que ça soit suffisamment sûr et salubre pour que les gens puissent habiter. Et ça, c'est important parce qu'il y a eu des accidents de personnes qui occupaient des lieux avant un permis d'habiter ou d'utiliser, sans qu'il y ait eu le contrôle de l'administration, le contrôle final.
Mais il y a tout le temps un contrôle, même pour les petites habitations, je sais pas, une modification dans un, oui, oui. Dans un bâtiment, oui. Vérifier que les
Alors, dans le canton de Vaud, oui. Dans d'autres cantons, vous avez une sorte de contrôle qui est fait par une entreprise, un certificat de conformité qui est fourni par le constructeur, un peu comme en matière d'électricité.
Est-ce que, si on revient sur la question des oppositions, c'est possible et légal de monnayer le retrait d'une opposition? Est-ce qu'un promoteur peut faire ça?
Alors, c'est admis, pour autant que celui qui obtient ça a une contrepartie, c'est-à-dire que vous acceptez qu'on mette un étage de plus devant chez vous, et c'est évidemment une gêne qui va être payée. Autrement, c'est tout à fait discutable, voire immoral, mais ça peut exister, c'est assez rare. Moi je le vois, alors je crois que je l'ai quasiment jamais vu dans mes nombreux cas.
Il y a des grands projets parfois d'infrastructures qui sont retardés de plusieurs années parce qu'il y a une personne, un voisin qui fait opposition jusqu'au tribunal fédéral. En fait, il y a pas de limite, on peut tout le temps aller jusqu'au tribunal fédéral.
Ça, c'est la Suisse qui souhaite effectivement garantir les voies de droit, mais il faut chaque fois pouvoir démontrer qu'on a qualité pour le faire.
J'ai parlé de la vue tout à l'heure. Est-ce que la vue, c'est si je perds de la vue, ça suffit pour faire opposition et peut-être pour gagner?
Non. La vue, ça vous légitime pour recourir, le cas échéant, parce que vous êtes confronté à ça, mais c'est pas un moyen de droit de fond, à moins que vous ayez une servitude. Alors simplement, vous avez effectivement ce livre, j'espère qu'il servira à beaucoup de gens, des architectes qui me posent souvent des questions, des propriétaires. Je dis toujours que c'est un joli cadeau de Noël qui sera peut-être sous les prochains sapins.
Effectivement, il est très complet parce qu'il parle de tous les cantons romands, donc sur cette thématique du permis de construire, c'est le titre de cet ouvrage paru aux éditions du Savoir Suisse. Je rappelle, Benoît Bovec, vous êtes avocat spécialiste du droit de la construction et de l'immobilier, professeur à l'Université de Lausanne. Bonne suite de journée à vous.
Merci beaucoup.
Et à la technique ce matin, il y avait Luana Biadici, Eloïse Nussbaum et l'attaché de production de Tribu. Bastien Arnold est en charge de la programmation musicale. Lundi, nous parlerons de toute autre chose. Nous parlerons de notre rapport à la cigarette. Tout de suite, Marie Riley et les décodeurs. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente suite de journée à l'écoute de la première.
Tribu, Julien Magnier.
La maltraitance infantile n'est pas un jeu d'enfant. En Suisse et dans le monde, des milliers d'enfants sont confrontés à des situations de violence physique, psychologique ou à de la négligence. Pourtant, face à cette maltraitance, donner est un jeu d'enfant. La RTS et la chaîne du bonheur s'engagent du 14 au 20 décembre pour une enfance heureuse en Suisse et dans le monde avec leur programme Cœur à Cœur. Faites un don sur coeur.rts.ch.
Les décodeurs, avec le théâtre du Crochetant et sa programmation du printemps, crochetant.ch.
Vendredi 29 novembre, bienvenue dans les décodeurs. C'est la dernière journée que nous passons à Blonay-Saint-Légier avec Gianni Gringelli, archiviste honoraire de la commune, grand amoureux de la région et personnalité idéale pour nous présenter le centre culturel et social local qui fête cette année ses 20 ans. La Maison Pixon nous accueille depuis lundi, tout comme elle accueille les habitants et habitantes de la région et de tous les âges pour des activités tout au long de l'année. Avec nous également une décodeuse et trois décodeurs. Bonjour Format.
Mais bonjour Blonay. Bonjour les décodeurs.
Bonjour Nicolao.
Bonjour Marie, bonjour Saint-Légier Blonay.
Bonjour Frédéric Gérard.
Bonjour Marie, bonjour Blonay et Saint-Légier.
Et bonjour Marc Boivin.
Bonjour Marie. Bonjour le village.
Le village. Et puis je suis passé un petit peu vite sur votre nom, Gianni Gringelli. Bonjour Gianni Gringelli. Ouais.
Bonjour. Bonjour.
Gianni Gringelli, on a parlé donc des 20 ans de la Maison Pixon qui se fête cette année. On a parlé de tout ce qui s'y fait. Racontez-nous comment seront les 20 prochaines années ici. Est-ce qu'il y a des défis particuliers auxquels cette Maison Pixon doit faire face ou tout roule?
Il va falloir trouver de la place sur la façade, hein, parce que comme vous allez encore d'ici 20 ans remettre 4 ou 5 communes pour fusionner, ça va être...
Non, dans la région, là, les fusions ne fonctionnent pas très bien. J'ai vu que Veto et Montreux n'ont pas fusionné. Non, mais dans 20 ans, on aura peut-être plus de... On espère beaucoup de jeunes qui pourront continuer à habiter dans la commune. C'est surtout ça qu'on aimerait, qu'il y ait encore des générations différentes. Et puis, ben voilà, hein, je veux dire que c'est vrai que dans ces 20 dernières années, ce qui était assez impressionnant, c'est la disparition en gros de l'agriculture, et puis qu'on arrive à un village assez peut-être quand même résidentiel, ce qui était pas tout avant, c'était vraiment un endroit agricole, les gens vivaient de l'agriculture. Après, se sont spécialisés, parce qu'avant, c'était souvent des gens qui avaient un bout de forêt, qui avaient un peu de vigne, qui avaient un petit peu de bétail. Et puis ensuite, après, ils se sont spécialisés. Certains ont pris plutôt le bétail, d'autres se sont occupés plutôt de la forêt, d'autres sont devenus plutôt vignerons. Mais voilà, ça, c'est surtout le défi de cela. Et puis, est-ce que dans 20 ans, il y aura toujours de la vigne à Blonay-Saint-Léger? Ça aussi, ça, c'est le souci. On espère, parce que les gens ont toujours soif. Mais voilà. Mais autrement, on espère qu'il y ait encore, et surtout, encore de la culture, et que les gens puissent parler de culture et faire vivre la culture de tous les jours. Ça, c'est le plus important, qu'on puisse vivre de ça.
Un renouvellement donc dans cette commune de Blonay-Saint-Légier pour cette maison de Pixon qui accueille, je crois, les enfants des premiers venus. Ceux qui étaient accueillis il y a 20 ans ont désormais pour un ou deux enfants, je crois, des enfants qui viennent ici, qui sont accueillis, c'est vrai ? Oui, il y a un monsieur qui me fait signe. Oui, c'est vrai. Oui. J'ai lu ça dans un article. Tout comme j'ai lu qu'il y a une coiffeuse qui disait qu'avant, elle voyait les vaches passer au centre de Blonay-Saint-Léger. Ça n'est plus le cas. Elles ne passent plus, les vaches. C'est vrai, elles ne passent plus.
Non, elles ne passent plus. Il y a encore quelques chevaux qui passent. Et puis, vous savez que les chevaux, c'est assez intéressant. Ils n'ont pas besoin d'avoir un petit cornet pour aller ramasser les crottins. Ils peuvent laisser le crottin encore, parce que le crottin, c'était quelque chose, à l'époque, beaucoup de gens se dépêchaient d'aller ramasser le crottin pour le mettre dans le jardin, parce que c'était quelque chose, c'était un engrais qui était très très important. Alors c'est pour ça que c'est encore une règle qu'on pourrait peut-être remettre, mais ça sert à rien de mettre beaucoup de règles.
Ah, c'est, je ne savais pas ça, qu'on n'avait pas besoin de ramasser le crottin. Est-ce que chez nous, on doit le ramasser, je crois, à Fribourg?
Alors, si
non,
on
je crois pas.
Si on, c'est ça. Si on veut changer, on va dire l'univers odorifère de du canton, qui est aussi notre identité, on peut le faire. Moi, j'aime la culture, j'aime ses traditions, j'aime ce pays qui sent sa culture.
Ouais. Ça.
Merci. Donc, on peut laisser le crottin, on peut laisser la bouse. Moi, j'ai les bouses dans les escaliers chez moi.
Hein. Ah bah oui, mais bon, comme tous les fribourgeois et les fribourgeoises.
Ouais, bien sûr.
Très bien, nous avons parlé de purin, de fumier, de tout ce qu'il faut. On peut jouer, si vous êtes d'accord. Gianni Gringelli, nous parlons d'une création écossaise dans cette première question du jour. Qu'ont créé des chercheurs écossais à partir de plastique recyclé? Format, c'est à vous.
Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, le thème de l'écologie, il est plus important que jamais. Du coup, on essaie de trouver des combines pour tout particulièrement pour le plastique qui finit dans nos océans. Et pour ça, on peut compter sur les Écossais qui ont inventé le papier toilette réutilisable en plastique recyclé. Oui. Ouais, c'est la pénurie de papier toilette. Vous vous souvenez pendant les années 2020, là? Ouais. Bah, c'est ça qui leur a inspiré cette idée géniale. Leur entreprise s'appelle QSEC. Donc voilà, l'idée, c'est d'utiliser ce papier. Et puis voilà, après avoir fait ce qu'on a à faire, on le rince et puis comme ça on peut le réutiliser pour plus tard. C'est réutilisable à l'infini et le papier a une matière légèrement rigide qui permet d'aller racler un peu tout ce qui est raclé. C'est vraiment bien pensé. L'année passée, ils ont sorti une publicité qui a fait le tour du monde parce que leur jingle était fou. Et moi j'adore les jingles. Le jingle de leur publicité, ça faisait comme ça. Je suis ton père. Ah, c'est des créatifs.
Marc Boivin.
À partir de plastique recyclé, des chercheurs écossais ont réussi à créer le slip invisible.
Ben voilà.
À porter sous le kilt. Vous me direz. Est-ce que c'est bien utile? Qu'est-ce que ça change? Et je vous répondrai sans doute pas grand-chose, sinon qu'en cas de coup de vent, l'ensemble paraît beaucoup mieux tenu. Et maintenant, je vais vous soumettre un petit quiz sur les innovations, inventions et technologies.
Là, je suis prêt.
Vous êtes prêts? Météo Suisse est en train de développer une nouvelle application beaucoup plus précise que l'application actuelle qui annoncera le temps qu'il a fait hier.
Ah, ça c'est vrai.
Ça c'est vrai. Pour qu'il arrête de se gratter, on peut implanter une puce dans la tête de son chien.
Voilà. C'est sûrement Momos qui veut ça.
C'est vrai, mais ça ne fonctionne que si l'on lui implante celle qu'il a dans le bas du dos.
Ah, la puce.
Pour attirer une nouvelle clientèle au budget modeste, Elon Musk propose des vols dans l'espace aux immigrés en situation irrégulière.
Là, il faut savoir si son numéro d'AVS il finit par pair ou impair.
C'est ouais, c'est presque ça. Moi, j'avais simplement pris vrai, mais ce sont des vols allés simples. Nestlé est en train de développer un chocolat au goût de fromage.
Ah, c'est vrai.
Ça, c'est vrai. C'est pour séduire la gamme des consommateurs atteints du Covid. Pour préparer leur match, l'équipe de Suisse de football et le HC Fribourg-Gotteron utilisent la même application prévisionnelle qui optimise les chances de l'adversaire.
Ah, ça, c'est vrai, ça.
C'est vrai.
Invention garantissant encore plus la sécurité des automobilistes. L'air doggy bag se déclenche dès qu'on écrase un chien en train de faire ses besoins.
Ça, c'est très utile.
Ça, c'était vrai. Et enfin, alors c'est une question un peu plus personnelle. En général, je parle pas trop de moi dans les quiz, mais voilà. Je suis en train d'apprendre l'allemand avec l'aide d'une intelligence artificielle.
Oui.
C'est vrai. Ouais. Grâce à l'IA, je sais déjà dire « ya ». Mais c'est le début, hein. C'est au début, là. Je vais continuer.
Bravo.
Voilà. C'était pas méchant. C'est burlesque.
Frédéric Gérard.
Oui, alors grâce à des bactéries, je ne sais pas lesquelles, des chercheurs écossais dont j'ignore le nom ont réussi à extraire de la vanilline, c'est pas comment on dit, de déchets plastiques. Donc cette découverte permettrait de mettre un goût vanillé à plein de denrées alimentaires, ce qui serait évidemment profitable aux producteurs de ces denrées, évidemment à l'environnement. Et puisqu'on parle de vanille, il me vient l'envie soudaine de mettre un peu de poésie dans mes propos et de vous lire un couplet d'une très jolie chanson de Frédéric G.
Poète.
Intitulée « Le petit glaçon ». Je vous la lis, je vous la chante pas. Quand j'étais petit glaçon, maman me disait « Gaston, tu deviendras comme Pépé, un grand glacier. » Ou un iceberg comme papa, enfin je serai fier de toi, mais je veux pas que tu finisses dans un pastis. Oh. Et moi, je rêvais d'être une glace à la vanille pour pouvoir disparaître dans la bouche d'une fille.
Oh.
On termine avec vous, Nicolas O. Psst.
Macintosh. Macintosh, viens, faut que je te parle. Non, pas ici. On sort du labo. Suis-moi. Macintosh, je vais te dire quelque chose, mais il faut que tu me jures que tu n'en parleras à personne. Jure sur Saint-Andrew. Ok. Hier soir, je suis resté au labo. J'avais des analyses à finir. Il était tard. J'étais seul. Et non, je me suis pas fait mordre par une araignée radioactive, non. Ouais, dommage. Donc j'étais seul. Et non, je me suis pas fait enlever par des extraterrestres non plus, non. Ouais, dommage. J'étais seul. Et non, Kate Winslet n'est pas tombée en panne devant le bâtiment, m'a demandé de l'aider à réparer sa voiture avant de me proposer d'aller boire un dernier verre dans sa chambre d'hôtel, non. Macintosh, va falloir que tu revoies un peu tes aspirations à la baisse, hein, parce que là, j'ai l'impression que tu vas être un petit peu déçu par ce que je vais te révéler. Non. J'étais seul et j'ai mélangé de l'hydrocarbure sulfatique de potassium avec du monoamide de polypropylène. Si ! Avec du monoamide de polypropylène. Fouille ! Mais qu'est-ce que ça a fait ? Ça a fait de la fumée. Ouais, juste de la fumée, ouais. C'est tout, ouais. Enfin, presque. Après, j'ai été dans la chambre d'hôtel de Kate Winslet avec mon araignée radioactive et on a tapé le carton avec des extraterrestres. Non, c'est pas vrai. On retourne bosser ? Ok, on y va.
Gianni Gringelli, une création écossaise à partir de plastique recyclé. De quoi s'agit-il ? Format pour vous, ce serait le premier papier toilette réutilisable en plastique. Ça doit être confortable. Ouais. Marc Bois va vous nous parler du slip invisible, encore mieux, au niveau du confort. Frédéric Gérard, pour vous, c'est un arôme de vanille.
Absolument.
Nicolas O.
De la fumée.
Gianni Gringelli, pour un 24e point, quelle est cette invention écossaise ?
Ah, je serais assez pour la vanille.
C'est parfait. C'est un peu fumeux, hein.
Frédéric Gérard disait vrai, des chercheurs écossais ont réussi à extraire de la vanilline de déchets plastiques à l'aide de bactéries. Cette découverte permettrait de transformer les déchets plastiques en un produit à forte demande dans le monde entier, tant l'environnement que les producteurs de denrées alimentaires pourraient en profiter. On va voir si le public a suivi. Oui, Frédéric Gérard en grande majorité, mais il y a eu quelques voix quand même pour Marc et pour Nicolas.
Ouais. Ça oui. s'appelle la popularité.
Oui. Ah, oui.
On les a fait rêver. Moi, je crois qu'on les a oui. fait rêver.
Ou ça s'appelle le vendredi. Hein. Tout le monde est fatigué, peut-être.
C'est,
je ne sais
c'est
pas.
Le rêve.
Il n'empêche, vous marquez ce point, Gianni Ghiringhelli. 24e point pour vous. Bravo. Et c'est toujours Jack qui est en tête pour notre public, alors qu'on a complètement perdu le Fab. Fabrice, où êtes-vous? Vous avez fini de jouer, c'est ça?
Marie Riley et les Decodeurs sur RTS La Première.
Gianni Ghiringhelli, vous nous avez offert à toutes et à tous hier en fin d'émission une carte postale avec dessus la photo d'un oiseau. C'est un martin pêcheur et c'est une photo que vous avez prise parce que les oiseaux, vous adorez ça. Vous êtes un grand fan d'oiseaux, vous êtes même un peu ornithologue à vos heures perdues, c'est juste?
Oui, c'est la chance de pouvoir me balader, puis de prendre de temps en temps des photos d'oiseaux. Et puis surtout, j'aime beaucoup parce que j'utilise ces cartes postales pour fêter des anniversaires ou remercier des amis et autres, parce que je trouve que c'est une manière de partager la nature. Parce que c'est vrai que je vais souvent seul, parce que pour pas trop déranger les oiseaux, on va toujours souvent seul. Alors c'est une manière de faire partager ma passion. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'avoir beaucoup d'oiseaux autour de chez nous.
Vous avez pas
simplement autour, à Blenay, autour de chez moi, j'ai passé 30 oiseaux que j'ai déjà pu repérer. d'espèces différentes qui viennent de temps en temps se poser. Et ça, c'est magnifique.
Vous n'avez pas une photo de vautour? J'aimerais en envoyer une à ma belle-mère. Vous n'avez pas?
Nous allons parler d'oiseaux, de noms d'oiseaux, justement, dans ce dico rapido. Oui, Gianni Giringhelli, puisque vous êtes fan d'oiseaux, là, vous devez choisir quel dicodeur, quelle dicodeuse est le ou la plus calée en noms d'oiseaux.
Je vais utiliser Marc Boivin.
Marc Boivin, pour les oiseaux.
Des règlements sur les oiseaux.
Eh bien, Marc Boivin, je vais vous donner un nom d'oiseau.
Oui, et
littéralement, et vous allez me dire si c'est vrai.
Si c'est un vrai oiseau ou pas.
Ouais. C'est vous qui commencez. Par exemple, d'accord, si je vous dis le carouge.
Le carouge?
Oui.
Oui, oui, bien sûr.
Oui, il peut vous aider, notre bon, invité. Le carouge, oui, c'est un oiseau.
Oui, je l'ai photographié cet été.
Le courvite, pour vous, Frédéric Gérard.
Oui, c'est un oiseau.
Eh bien, oui, c'est un oiseau, le courvite. L'étourdi des campagnes, pour vous, Format. L'étourdi des campagnes.
Ah, j'ai envie de... Non.
Non, vous faites bien.
Un tourneau, hein.
Ah oui, c'est les tourneaux des campagnes. Le figuier pour vous?
Oui.
Oui, c'est un oiseau.
Ouais.
Oui. Le gobe-mouche?
Comme ça, à l'instinct, hein. Mm-hmm. J'aurais plutôt tendance à dire oui, mais...
Eh bien oui, c'est un oiseau. Frédéric Gérard.
Ah, attention, ça c'est important.
Le mésange gardien?
Non.
Oh, c'est chou.
Ça mériterait.
Non, ça n'est pas un oiseau. La grue de chantier, Format.
C'est non. Voilà.
Non, ce n'est pas un oiseau. La grue cendrée, Nicolas.
Ah oui, non, c'est un oiseau.
C'est un oiseau. Le chevalier aboyeur.
Moi, je dirais oui.
Oui.
Tout à fait.
Le chevalier cul blanc.
Pardon,
Frédéric
le chevalier cul blanc?
Oui.
Le chevalier cul blanc? Non.
Eh bien, oui, c'est un oiseau.
Voilà.
Le chevalier cul blanc.
Ouais. C'est sens du sac.
Vous êtes éliminé, Frédéric Gérard. Le chevalier des cul blancs.
Ah,
Format.
Bah, du coup, non.
Non, ça n'est pas un oiseau. Le pic à glace, Nicolas O.
Oui.
Le pic à glace. Non.
Si on le jette, bon moment.
Mais bien sûr.
Non, vous êtes éliminé.
Oh, voilà.
Non, mais on fait quoi? Moi, je suis sûr que si on va en découvrir un, on va en découvrir un au pôle Nord de ces pics à glace. Un jour, il y en aura bien.
Le pic vert pour vous.
Non, oui, bon.
Le pic vert ou le pivert?
Le pic vert.
Le pic vert, oui, je pense que c'est un oiseau. Mais...
Oui. Il nous reste Format, hein, avec
ouais, c'est
vous.
C'est étonnant, ouais.
Le pouillot véloce.
Oui. Oh, ouais.
Ah, le pouillot véloce.
Ouais, ouais.
Oui, c'est un oiseau. La fauvette à lunettes, Marc Boivin.
Alors, la fauvette, oui, à lunettes, je dirais plutôt non. Comme
mais
ça,
elle a des lentilles.
La fauvette à lunettes?
Bien
pas,
sûr
moi.
Qu'elle existe.
Oui, elle existe.
J'ai pas compris le sens de la question.
Ah, voilà. La foulque Macron, pour vous, Format.
Moi, ouais, je vais te dire non.
Oui, oui.
Non, c'est la foulque Macroule.
Ah. Macron.
Le bruant zizi. Pour...
Alors ça, oui, le bruant
eh bien,
zizi,
oui.
C'est un petit, le bruant, oui. Un petit bruant.
Petit oiseau.
Oui, qui oui. Doit son nom, à... mais oui, non, mais c'est joli comme nom. Le bruant zizi qui doit oui. Son nom à oui. Sa litanie monotone, oui. Ai-je lu. Le rouge-gorge, Format.
Ouais, alors
le
oui.
Rouge-gorge, c'est
okay, oui, le rouge-gorge. Je ne peux pas perdre sur le rouge-gorge quand même. Hein.
J'étais ok avec ça.
Le tétra-tirelire.
Alors, le tétra-tirelire, je pense que c'est un bon jeu de mots, mais je dirais non.
Non, il n'existe pas. L'Inter de Milan.
Non.
Non, il n'existe pas.
Parce
le Milan Royal.
Vous êtes moqué Milan des Royal, jeux oui. De mots de Marc Boivin pendant toute la semaine. Ouais. Et là, vous nous faites un festival.
Est-ce qu'on a des influences?
Le Milan Royal pour vous,
moi,
Marc Boivin.
Je pense que ça existe. Hein,
bien sûr, le gorge bleu. Format, oui, et le troglodyte mignon.
Je dirais que ça existe, parce que
ça
c'est très
existe.
Mignon et ça vit dans les petites cavernes.
Ça existe, et c'était le dernier de la liste, vous avez donc remporté.
Mais rajouter le krakouka,
avec
enfin,
Format.
Quelque chose.
Mais le krakouka, j'aurais pu rajouter. On va dire que vous avez gagné ce point, Gianni Giringhelli.
Bravo.
L'honnêteté me pousse à avouer que j'ai quand même passablement été aidé par notre invité qui apparemment s'y connaît. Extrêmement bien en oiseaux.
Oui, voici un titre que si vous ne connaissez pas encore, eh bien vous allez adorer. Il est sorti il y a 6 ans. Et il est de vous, Nicolas O. Je ne connaissais pas.
Ah,
non,
oui.
Mais j'en reviens pas. Je ne connaissais pas ce titre. Voici Trop tard et trop haut. Ah, oui. C'est Nicolas O.
Trop tôt.
Sur RTS trop Première. Trop haut. Trop tôt.
Oui, trop tôt.
Mais je vous ai dit que je ne connaissais pas. Trop tard, trop tôt. Trop tard et trop tôt. C'est Nicolas O. Sur RTS Première.
La fumette, trop tard. La retraite, trop tôt. Le gros tatou, trop tard. Le petit toutou, trop tôt. Se balader en survêtement, trop tard et trop tôt. Ibiza, trop tard. Monaco, trop tôt. Rihanna, trop tard. Morisot, trop tôt. Allez en boîte. Trop tard et trop tôt. On est toujours entre deux âges. On est trop tard, on est trop tôt. Trop tôt pour la voie de garage. Trop tard pour faire de la moto. Mettre un string, trop tard. Faire un lifting, trop tôt. Le moule beat, trop tard. Appeler exit, trop tôt. Les couches culottes, trop tard et trop tôt. La tequila, trop tard. Le bouillon de veau, trop tôt. Snapchat, trop tard. Bingo, trop tôt. Le son à fond, trop tard et trop tôt. On est toujours entre deux âges. On est trop tard, on est trop tôt. Trop tôt pour la voie de garage. Trop tard pour faire de la moto. Allison, trop tard. Yvonne, trop tôt. Être religieux, trop tard. Croire en Dieu, trop tôt. Voir ses copains autour d'une bière, trop tard et trop tôt. Capuche, trop tard. Perruche, trop tôt. Testostérone, trop tard. Sonotone, trop tôt. L'infirmière sur demande, trop tard et trop tôt. Manger pendant 5 heures, trop tard. Manger à 5 heures, trop tôt. Les carambars, trop tard. Les pruneaux, trop tôt. Mettre ses dents sous l'oreiller, trop tard et trop tôt.
Marie Riley et les décodeurs sur RTS La Première.
Très beau.
Vous êtes aimé.
C'était une chanson de spectacle, ouais. Non?
J'ai beaucoup aimé. C'était la chanson de mon précédent solo, absolument.
Oui. La chanson de Limite, non?
Exactement.
Mais j'avais adoré ce titre. Ouais. Et ce spectacle aussi, ouais. D'ailleurs.
Et c'est un choix de Willy Desélus qui doit donc beaucoup vous aimer.
Il y a beaucoup
aimer.
De goût.
Oui, il y a beaucoup de goût. Et c'est votre tout dernier défi de la semaine, Gianni Ghiringhelli. Vous avez l'occasion d'attraper encore un point si nos décodeurs, notre décodeuse ne trouvent pas la réponse à votre question. Ils ont une minute.
Alors, dans la commune de Blenay-Saint-Légier, il y a de nombreux sports qu'on peut pratiquer parce qu'il y a beaucoup d'installations sportives. Il y a des terrains de foot, de basket, de rugby, une piste de pétanque, de tennis, des pistes de ski alpin, de ski de fond, des terrains d'atterrissage pour parapente, des parcours de VTT, même un mini-golf, un terrain pour l'agility, une place pour le tir à l'arc, deux stunt-tirs et un terrain magnifique avec vue sur les montagnes, sur les montagnes et sur le lac. Mais quel sport pratique-t-on sur ce beau terrain?
Cricket.
Non.
L'apéro.
Baseball.
L'apéro, c'est après les compétitions. Non.
Football américain.
Non.
Le frisbee.
Non.
Chuckball.
Non.
Le paintball.
Non.
Le polo. Le polo.
Non,
polo.
Pas le polo. Non.
Le water polo.
Non, c'est pas une piscine.
Ça fait rien, c'est vachement bien aussi sur,
oui,
sur l'herbe.
C'est un
extérieur, oui.
Le rubis,
le hornus.
Non.
Ça, le hornus.
Le gazon.
La Formule 1.
Non. C'est interdit.
La roulade.
1954. Non.
Le.
C'est un sport d'équipe.
Oui.
L'acrobranche.
Oui.
Le cyclisme. La pétanque sur herbe. Non. Le.
Alors, c'est un sport qui. On va dire peu pratiqué, mais qui s'appelle la boule ferrée.
Ouais.
Donc c'est la pétanque sur herbe.
Des sports, on peut tout le faire.
C'est une pétanque un peu spéciale.
Je l'ai dit, ça, la pétanque sur herbe.
Il y avait la beach pétanque aussi qui était bien.
La boule ferrée.
La boule ferrée, c'est parce que c'est ferrée, c'est simplement parce que au centre c'est un rond en bois et autour on mettait du fer, des clous. Et ça permettait d'avoir ce qu'on appelle la boule ferrée. Mais c'est un sport qui est un peu particulier. Ça ressemble un peu à la pétanque parce que on peut en jouer. On a un cochonnet. On doit lancer le plus près possible du cochonnet. Mais ce qui est subtil, c'est qu'on n'a pas le droit de faire déplacer le cochonnet ou une autre boule de plus d'un mètre. Alors, il y a tout
mais
un
dans,
règlement.
Mais dans le pétanque aussi, on n'a pas le droit de toucher les
boules. Non, parce qu'il y a une petite règle qu'il y a. Et il y a un règlement pour jouer à cette compétition de passer 70 pages. Vous imaginez? Mais au moins une fois par année, au début septembre, il y a un tournoi amical où toutes les, on est des équipes de trois et on
vous
peut
lisez
jouer.
Vous lisez le règlement?
Non, lis pas le règlement, on se débrouille. On se débrouille. Non, mais j'aime pas beaucoup
mais
les règlements.
Mais quand vous dites, on est des équipes de trois, honnêtement. Il y a une autre équipe qui joue avec la vôtre. Vraiment, sincèrement. Vous n'allez pas nous faire croire ça quand même.
Non, mais c'est la dernière fois, il y a eu 17 équipes de 3 personnes.
Ah ouais. C'est retransmis à la télé ou
Non, alors, non, c'est vraiment un sport de niche. Voilà. Mais ça veut dire qu'on a de la chance de faire beaucoup de sport. Le ski club a fêté ses 80 ans, le Blonnet Basket va fêter ses 50 ans. On a une société de gym aussi qui est assez importante, du tennis de table. Donc, on peut faire beaucoup de sport du côté de Blenay-Saint-Léger aussi.
Et marquer des points. Le 26e, Gianni Merci. Ghiringhelli, bravo. Bravo. On va prendre un instant pour voir si les nouvelles sont aussi bonnes qu'hier. On va très vite le savoir. Voici les informations.
RTS La Première vous offre l'heure.
Sur RTS Première, il est midi.